Esprit rebelle, un voyage initiatique au cœur de l'habitat coopératif. Découvrez les rêves et les révolutions et la magie de la coopération en action. Chaque épisode vous plonge dans une coopérative d'habitants. Pour dépasser l'individualisme et affronter les crises de logement, explorez créativité, solidarité et non-spéculation. Préparez-vous à être inspiré, à comprendre et réinventer notre manière d'habiter. Bonjour, je m'appelle Aliaëlle Gayed. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Sandrine et Françoise, coopératrices et habitantes de la coopérative d'habitants Maison Oasis à l'Orgue dans le Var. Sandrine et Françoise, je les connais depuis des années maintenant. Leur coopérative fait partie du mouvement des coopératives d'habitants Abicop et aussi de l'habitat participatif et des oasis. C'est une coopérative habitée depuis 7 ans. J'ai eu l'occasion de les rencontrer lors du festival Oasis qui s'est déroulé du 21 au 25 août en Ariège. Festival organisé chaque année par la coopérative Oasis. Lors de cet entretien avec Sandrine et Françoise, j'ai pu échanger sur différents points de leur projet et de voir combien celui-ci a changé leur vie. Pour moi, c'était un moment émouvant. Et donc, j'espère que ce voyage va vous plaire et il va vous inspirer. Juste après l'entretien, on prolongera notre voyage dans le sud avec Nuno Ferrer. On se retrouvera après pour aborder le point technique de cet épisode. À tout à l'heure. Bonjour Françoise.
Bonjour,
bonjour. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Vous pouvez nous décrire le projet, c'est-à-dire les activités qu'on trouve, les espaces qu'on trouve dans la maison.
Le projet, c'est une coopérative d'habitants avec quelques logements, c'est-à-dire 7 logements, 8 personnes, des personnes d'un certain âge pour la majorité entre 65 et 82, et quand même une personne plus jeune avec son enfant. Et comme activité, ben on vit ensemble, on a une réunion mensuelle régulière, obligatoire. Et puis à chaque fois qu'on a besoin d'un travail collectif, on se retrouve, on mange ensemble. Comme activité, il y a une grande salle d'activité de 100 mètres carrés et des chambres d'accueil avec possibilité d'accueillir la famille, les amis, et éventuellement les louer pour nous aider dans le fonctionnement financier de la coopérative. Et la salle d'accueil reçoit des groupes ou des associations pour des activités de yoga, des activités de cinéma, des activités diverses. Toute personne de la coopérative ou extérieure qui a envie d'utiliser ces lieux en demande la location.
Et est-ce que tu peux ou vous pouvez nous raconter comment ce projet est né ?
Alors, il est né suite à deux idées d'abord. Avec mon mari, on était propriétaire de cette usine et on ne pouvait plus l'entretenir seul et surtout financièrement. Donc, on s'est dit qu'il faut trouver une solution. Et un jour, en travaillant avec un groupe sur notre village, sur le vieillissement et la fin de vie, on a rencontré des gens qui nous ont dit surtout, et notamment une directrice de maison de retraite qui nous a dit « Surtout, moi je n'irai jamais en maison de retraite. Oh, » J'ai dit « Ah ben oui, c'est vrai. Eh ben nous, on va faire notre maison de retraite. » Donc on a monté le projet avec cette idée-là au départ, vieillir autrement que dans une maison de retraite et essayer d'échapper à cette structure. Voilà comment est né le projet. Après, on a travaillé. On est parti de notre bien puisque du coup, on allait en faire quelque chose et on allait trouver les moyens qui passent à la coopérative ou au montage qu'on allait faire. Et du coup, ça s'est fait progressivement.
Et aussi, vous aviez cette intention que ce lieu ne passe pas à la spéculation immobilière. Et c'est un peu pour ça que vous avez choisi la coopérative, si je ne m'abuse.
Oui, tout à fait, tout à fait. Ça a été, je pense, le seul montage en coopérative qui nous permettait de sortir le bien de la spéculation et en même temps de le rendre accessible à des gens qui ne pouvaient pas acheter ce bien, parce que vraiment trop cher sur la région où on est. Et donc, c'était aussi le moyen de préserver notre projet à long terme, parce qu'on est très attentif à ce que ça dure. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour 20 ans ou 30 ans, on le fait pour vitam aeternam. Après notre mort, il faut que ça continue.
Et si je me souviens bien, il n'y a pas que la coopérative, il y a aussi un fonds de dotation. En deux mots, comment ça s'articule ?
Alors le fonds de dotation a été mis en place pour hériter de la du lieu à notre décès. C'est-à-dire que le fonds de dotation est une structure qui se monte très facilement, en un mois. Il suffit d'avoir des statuts, un objet très précis qui va en direction de l'intérêt général et 15 000 euros. Et après, on a fait un testament qui lègue notre bien au fonds de dotation, qui le gérera comme aujourd'hui, c'est-à-dire que la coopérative sera quasiment propriétaire avec le bail emphytéotique, puisqu'aujourd'hui la coopérative est locataire de nous, propriétaires, avec un bail emphytéotique. Donc on n'est plus propriétaire, on ne décide plus rien, c'est vite vu, et on paie notre redevance comme tout le monde, et le bail emphytéotique sécurise tout ce montage.
Juste le bail emphytéotique, c'est un bail à longue durée qui permet de donner les droits réels. C'est comme si on devient propriétaire le temps qu'on est locataire, qu'on est lié par ce bail-là.
Ce qui est fort dans ce projet-là, c'est quand même que les fondateurs étaient propriétaires, je ne sais plus si on dit sont ou étaient. Et en fait, ils ont fait tout un travail pour lâcher cette notion de propriété individuelle. Et ils font quand même partie du groupe où ils sont à une personne égale une voix, donc à même, c'est pas eux qui décident, ils font partie du collectif qui décide, et je trouve ça très fort.
Alors, puisque tu parles de la décision, comment ça se passe? Comment vous décidez? C'est quoi les règles de décision chez vous?
Oui, alors, normalement, on fait des décisions par consentement, mais on le fait pas à chaque fois, ça nous paraît un peu long pour l'instant.
Tu peux préciser en deux mots la décision par consentement?
C'est un protocole qui permet que chacun puisse donner son avis et il y a une proposition au départ et dire s'il y a des objections. Et en fait, consentement, c'est-à-dire que tout le monde accepte, qu'il n'y ait pas une personne qui se sente mal avec la décision qui est prise. Et nous, ce qu'on utilise le plus souvent quand même, c'est le tour de parole. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on débat sur un sujet, etc. Il y a des échanges, etc. Et quand il y a des échanges un peu vifs, on fait stop et on fait le tour. Et chacun donne son avis. Et après, on fait une pause ou même on renvoie à la réunion d'après pour avoir le temps de réfléchir. Et ensuite, soit de faire la décision de consentement, soit c'est clair pour tout le monde et ça passe comme ça, quoi. Voilà.
En fait, on a plusieurs outils pour la communication qui, en fonction des moments, en fonction des situations, on utilise l'un ou l'autre. Donc, en plus, à part Sandrine qui était formée à certains outils comme ça, par exemple, moi, non, j'ai été chef d'entreprise avant, donc c'était la direction, bien comme on connaît le chef d'entreprise. Donc il faut faire tout un travail de transformation par rapport à un management différent. Et les outils qu'on utilise, je trouve qu'il y a par exemple les réunions de non-dit qui sont magnifiques, parce que dès qu'on a un problème, on le soumet. On le dit à la personne, on est en groupe, on le dit à la personne, et puis il y a tout un processus qui fait que chacun s'exprime pour arriver à la fin à ce qu'il y ait une solution qui puisse être trouvée dans cette difficulté.
Dans cette réunion de non-dit, il y a un protocole aussi qui est complètement différent des autres réunions, où il y a le temps de parole de la personne qui dit ce qu'elle a à dire, mais il y a aussi un temps de reflet. Le groupe reformule pour voir si la personne a été bien entendue et qu'elle se sente entendue, et ensuite seulement après on dit ce que ça génère chez nous, quoi.
Si j'ai bien compris, aujourd'hui il y a essentiellement de l'habitation et quelques activités économiques liées à la location. Donc les parties prenantes de ce projet, les personnes qui sont régulièrement là, qui décident, c'est que les habitants et les habitantes ou il y a des personnes autres?
Alors, c'est essentiellement les habitants, mais on a dans notre montage un collège de coopérateurs solidaires, c'est-à-dire de personnes qui n'habitent pas, qui ont voulu soutenir le projet et qui ont pris des parts sociales. On a une personne morale qui est aussi dans ce cas-là, donc on a d'autres personnes. Et quand il y a une décision importante, ils participent à la décision. Mais c'est vrai que ça repose quand même beaucoup sur les habitants. Mais on fait normalement, je dis bien normalement, obligatoirement même, trois conseils de coopérative par an, qui réunit tous les collèges.
Et une AG par an. Ouais.
Et comment on intègre la coopérative? En plus, en ce moment, il y a des nouvelles intégrations. Comment ça se passe?
Alors, petit à petit, on a mis en place un petit déroulé. Donc, les gens qui nous... Bon, on a fait un appel. Et puis, les gens qui nous envoient par mail leur demande. Et on leur demande de venir faire une visite. On fait une visite une fois par mois. De 2 heures où on peut, ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent et nous aussi on peut s'informer de leurs désirs, de leurs besoins, etc. Et déjà, par exemple, les gens qui cherchent de la propriété individuelle, ben, on leur explique que c'est pas là. Enfin, on fait déjà un premier filtre parce que ça correspond pas à leur projet. Et puis ensuite, on leur demande de revenir, de faire des activités avec nous. Jusqu'à ce qu'il y ait une phase, si les gens veulent continuer, une phase d'immersion, qui peut être une immersion in situ, en dormant et en habitant sur place plusieurs mois, ou les gens qui habitent ailleurs et qui ne peuvent pas partir, plusieurs week-ends, et dans les immersions, ils participent aux réunions habitants, ils participent à le plus de choses possible pour qu'on apprenne à se connaître. Et à la fin du temps d'immersion, il y a un temps où on va, la personne demande ou pas d'intégrer et nous, on prend le temps de réfléchir et de voir si on les accueille ou pas. Voilà.
Donc c'est un long parcours, ça dure combien de temps?
Ça peut durer 6 mois à peu près.
Je voulais maintenant qu'on parle un tout petit peu de la question des choix architecturaux, parce que c'était une usine. Est-ce qu'au moment où vous avez réhabilité, comment ça s'est fait cette partie-là?
Alors, l'usine, elle était déjà habitée, puisqu'on y habitait avec mon mari. Il y avait des appartements qui avaient été mis en place 20 ans auparavant, ou même plus, quand l'usine a fermé autour des années 50. Il y a eu des appartements qui ont été aménagés pour louer la famille de mon mari, louer. Et il y avait toute une partie qui était des caves, tout ce qui stockait l'argile, tout ce qui était, puisque c'est la partie usine vraiment qu'on a héritée. Donc il y avait toute une partie qui était vraiment à réhabiliter, même des appartements qui existaient, il fallait réhabiliter. Donc on a fait une réhabilitation en étant très prudent sur les coûts. Ça a été de la réhabilitation, donc on n'a pas eu besoin d'architecte, on n'a pas eu besoin de demande de permis de construire, donc ça a facilité les choses. Et on a trouvé des artisans, on a eu des amis bénévoles qui nous ont aidés sur les plans, sur la conception. Et ça s'est fait petit à petit, on rénovait un appartement après l'autre. Et quand les gens arrivaient, les nouveaux habitants arrivaient au moment où on était dans la réhabilitation, ben, ils participaient. Mais sinon, à ce moment-là, c'est vraiment parti de nous deux avec mon mari. Et maintenant, si on fait un développement avec d'autres lieux à réhabiliter ou à re-restaurer, les gens qui vont venir, ce seront déjà des gens qui s'inscrivent dans le projet de co-création.
Et comment vous avez financé cette réhabilitation?
Avec les parts sociales, c'est-à-dire que le minimum était 15 000 par personne, et plus si on pouvait, donc il y en a qui ont mis 20 000, 30 000, 50 000, et on est arrivé à un montant de 300 000, on a réhabilité pour 300 000.
C'est quoi qui était le plus difficile pendant le projet, les défis qui étaient un peu compliqués à
le... Alors, le plus difficile, c'était qu'il y avait Il y avait des travaux gigantesques à faire dans la cour parce qu'il n'y avait pas le tout à l'égout. On avait été inondé au moment des grosses pluies en 2010 et il fallait à tout prix que ça ne se renouvelle pas. Donc on a fait des fondations et des aménagements des eaux noires et des eaux pour usées qui étaient... J'avais qu'une peur, moi, sans arrêt, que les murs ne tiennent pas, que ça tombe. Donc c'était très angoissant. Et ce qui a été difficile, c'est qu'on avait un maçon en qui on avait très confiance, qui a pris sa retraite au milieu du chantier, et il a fallu en trouver d'autres. Et on ne voulait pas une grosse entreprise, on voulait des petits artisans, et on n'a pas eu vraiment quelqu'un de très performant sur le métier. Donc on a eu des erreurs pour la suite, mais bon, l'important... Pour moi, c'était d'avancer pas à pas en fonction de ce qu'on avait comme réserve. Et j'avais toujours dit, au moment où on n'a plus rien, on arrête. Et on fera avec ce qu'on a en attendant de retrouver. Un peu une gestion familiale, en fait. Je ne suis pas allée sur une gestion de grosses entreprises, de gros business. Je n'ai pas voulu emprunter. Enfin, surtout mon mari n'a pas voulu emprunter. Donc, on est parti avec nos moyens.
Cette aventure, qu'est-ce qu'elle a changé dans vos vies aujourd'hui ?
Ouh là là ! Ça a changé qu'on s'est trouvé libéré d'un poids qu'était cette maison pour la conserver. Et surtout qu'elle ne parte pas, parce que si on n'avait pas pu faire ça, un promoteur l'achetait et ça y est, c'était fini. Hein. Ah, on l'aurait vendu très cher. Mais ce n'était pas notre projet. Notre projet, c'était vraiment qu'au niveau familial, Louis puisse garder ce bâtiment. Donc, la question ?
Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ?
Ce que ça a changé, c'est qu'on n'est plus seul. C'est-à-dire qu'on crée ce lieu pour éviter la solitude, pour... faire en sorte que notre fin de vie, on puisse la passer chez nous. Ça, c'est pas encore réglé. Hein. Mais d'abord, on n'est pas encore mort, alors on verra comment ça se passe. Mais ça fait partie de notre raison d'être, de s'accompagner au maximum jusqu'au bout. À rediscuter, à retravailler avec les nouveaux, parce que ça, c'était pour nous.
Et pour toi, Sandrine ?
Notre raison d'être, c'est vivre et vieillir, acteur et solidaire. Et pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Ça m'a permis de me poser dans un endroit sécure. Je sortais d'une longue maladie et j'avais besoin d'habiter. J'habitais dans un endroit un peu isolé, donc là j'habite avec des gens entourés. Donc ça m'a sécurisée et en même temps ça m'a permis de prendre l'envol sur des nouveaux projets. En plus, une salle à disposition pour pouvoir créer des temps, des stages, etc. Et puis des présences très belles autour. C'est magnifique.
Est-ce que ça a changé aussi chez moi ? Ou tout du moins, ça a continué ? C'est-à-dire que j'ai pu recréer encore autre chose. Ma vie, je la passe à créer. Et c'était une belle réalisation.
Et aujourd'hui, il y a des nouveaux projets pour comment ça continue à la coopérative Oasis, à la maison, comment ça se voilà.
Bah, le fait qu'il y ait potentiellement de nouveaux foyers qui rentrent, ça va redynamiser, repartir sur déjà la co-création de nouveaux espaces et du coup peut-être aussi créer de nouvelles dynamiques avec de nouveaux désirs. Et déjà, il y a eu des désirs sur l'accompagnement du vieillissement où on a proposé un parcours sur réfléchir au vieillissement. Et peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont se mettre en place. Là, c'est encore le moment de tous les possibles à nouveau. C'est super.
On a presque fini. Une des deux dernières questions. S'il y a un conseil à donner à des personnes qui veulent se lancer dans l'aventure de monter leur projet de coopérative d'habitants, ça serait quoi comme conseil ?
Faites-vous aider. parce que, bon, moi je suis partie avec mon mari, on était seuls, et j'aime chercher, j'aime aller vers les lois, j'aime trouver des choses, j'aime concevoir, mais souvent je me suis trouvée seule et sans filet, je ne savais pas si ce que je faisais ça allait, si c'était bien, si... et moi je conseille vraiment de se faire aider.
Et toi Sandrine ?
Oui, et puis de ne pas trop se prendre la tête, en fait, les choses vont se faire aussi avec ce qu'il y a sur le moment. C'est vrai que c'est beau de choisir un groupe, mais en même temps, avec les personnes qui sont là, on peut créer des belles choses aussi.
Et la dernière question, est-ce que vous aurez une référence, un livre ou autre chose, une émission que vous voulez nous partager, qui vous a inspiré ?
On a beaucoup travaillé sur le livre de Starhawk, c'est vrai, Rêver l'obscur. Et après, sur l'accompagnement de projet, souvent, ben moi, je regarde tes vidéos et je monte tes vidéos, Alia.
Et ben, merci beaucoup, Sandrine et Françoise, et longue vie à la maison Oasis Log.
Merci.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement, plus d'un million d'années. Et toujours en été, y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y a plein de chiens. Y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie surprend, plus d'un million d'années. Et toujours en été.
C'était notre petit voyage au cœur de la maison Oasis. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir des personnes qui changent complètement leur rapport à la propriété. Et même en étant propriétaire foncier, d'un bien assez important dans une région très chère comme le Var. Ils ont tout fait pour que ce bien rentre dans le bien commun et que ça ne reste pas une propriété individuelle lucrative. Donc merci à elle et à eux pour avoir posé une petite pierre dans cet habité autrement. Maintenant, on passe à la séquence technique. Comme dans l'entretien, nous avons parlé de bail emphytéotique, je voudrais faire la focale sur la maîtrise foncière. Voyageons plus loin, plongeons dans les mécanismes juridiques et financiers. Découvrez les détails qui transforment le rêve en réalité. La maîtrise foncière constitue un moment clé, voire le point de départ d'un projet immobilier. C'est à ce stade que les idées commencent à se traduire en réalité matérielle et concrète. Elles se confrontent aux règlements d'urbanisme, l'orientation du site, le paysage, la surface disponible, etc. Le foncier est le terme technique pour parler de terrain. Le terrain peut être nu, c'est-à-dire sans construction, ou bâti, avec des bâtiments existants. Généralement, la maîtrise foncière se fait par le biais de l'acquisition du terrain. Entre le moment où on identifie un foncier et le moment où on l'achète, le collectif a besoin de temps pour faire plusieurs démarches essentielles, comme la création de la société, le dépôt et l'obtention du permis de construire et la recherche de financement et leur obtention. Ce délai est plus ou moins important en fonction de la complexité du projet. Il est très important que durant cette période, le foncier soit sécurisé pour éviter tout simplement qu'il ne soit cédé à un autre projet. Si le foncier appartient à une commune ou à un organisme public, une délibération du conseil est nécessaire pour garantir que le terrain reste réservé au projet. Par contre, si le foncier appartient à un organisme privé ou une personne physique, il est important de signer un compromis de vente pour assurer l'exclusivité. Si la société coopérative n'a pas été encore créée, on a une solution. Ce compromis peut être signé par une personne physique ou morale avec une clause de substitution. Cela permet de gagner du temps. L'acte définitif, par contre, il doit être impérativement signé par la coopérative une fois constitué. Il n'y a pas que l'achat qui soit envisageable. On peut aussi louer le terrain à travers des baux de longue durée. Le plus connu est le bail emphytéotique. Il y a aussi le bail à construction, dans le cas d'une construction nouvelle, et le bail à réhabilitation, en cas de réhabilitation, qui sont plus adaptés que le bail emphytéotique. Le bailleur peut être une personne physique ou morale, publique ou privée. Ces baux de longue durée peuvent aller de 18 à 99 ans. Et ils confèrent au preneur, c'est-à-dire dans notre cas la coopérative, des droits réels immobiliers comparables à ceux d'un propriétaire. En effet, la coopérative peut hypothéquer le bien, le louer, faire les travaux nécessaires, etc. Cette solution est très intéressante parce qu'elle permet de réduire le prix du foncier du coût initial de l'investissement. Le preneur verse une redevance au propriétaire. Son montant est fixé par le contrat de bail et peut être même à 1 euro symbolique. C'est la fin de notre épisode. J'ai eu le plaisir de vous emmener à la découverte de la coopérative Maison Oasis à Lorgues et d'explorer les différents aspects du projet. Merci infiniment à Françoise et Sandrine pour avoir partagé leur expérience et leur perspective avec nous. Vous pouvez réécouter l'émission sur laclédesondes.fr et sur les différentes plateformes d'écoute. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet, vous trouverez dans la description de l'émission leurs coordonnées. Ne manquez pas notre prochain épisode. Notre exploration des coopératives d'habitants se poursuit avec l'écolieu de Pourgues en Ariège. Au mois prochain. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la coopération. Esprit rebelle, émission proposée par ADCOP, Association pour la promotion et l'accompagnement de l'habitat participatif non spéculatif en Nouvelle-Aquitaine. Et la clé des ondes, la radio bordelaise qui se mouille pour qu'il fasse beau. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where.